commencez à connaître ce petit générique, il est là pour annoncer ce petit journal quotidien, un petit report sur le festival Montpellier Danse.
Montpellier Danse qui en est à sa première, qui en arrive tout doucement à sa première semaine. On fera un point d'ailleurs demain en compagnie de, eh bien de Lise Hoth sur cette première semaine de festival. Vincent Pourageau sera également parmi nous pour nous parler des spectacles qu'il a vus. Aujourd'hui, c'est Régine Chopineau dont il sera question. Régine Chopineau, une habituée du festival qu'on a pu voir à différentes reprises.
On peut le dire, une habituée qui fait partie de la grande famille, qui faisait partie de la grande famille des centres chorégraphiques nationaux. Elle a dirigé jusqu'en 2008 le Centre chorégraphique national de La Rochelle.
Avant de passer la main à Kader Atou.
Exactement. Et on voit là d'ailleurs, c'est Kader Atou qui passe la main à Chopineau dans la programmation. C'est une forme de geste symbolique. C'est deux danses qui se passent la main. Le hip-hop passe la main à cette danse contemporaine française, telle qu'on l'a qualifiée dans les années 80, la nouvelle danse française. Et Chopineau a été, Régine Chopineau, était une des artisans de cette nouvelle danse française, tout comme une Mathilde Monnier justement et plein d'autres personnes de cette génération-là.
Et à l'instar de d'autres invités du festival comme William Forsythe, qui est présent sans tout à fait l'être puisqu'il ne présente que des installations et pas des pièces chorégraphiques, et bien c'est le cas aussi de Régine Chopineau qui présente une installation. Elle va s'en expliquer dans la conférence de presse qu'on va vous retransmettre dans quelques petites secondes. Installation à voir à partir de demain et jusqu'au mardi 29 juin à la Chapelle de la Miséricorde, un nouveau lieu investi par le festival Montpellier Danse.
Très beau lieu qui était investi notamment lors de la Biennale d'art chinois. Et c'est très peu, il y a très très peu d'accès à ce lieu et je vous conseille tous d'y aller. C'est à deux pas du musée Fabre, rue Montpellier. Non, pas rue Montpellier, je ne sais plus exactement.
Dans la rue qui est juste perpendiculaire.
Ouais, exactement. Aujourd'hui, dans le cadre de Montpellier Danse, évidemment, il y a William Forsythe avec ses installations, mais il y a aussi quand même des formes plus dansées. Quoique, on entre dans le ballet de Cecilia Bengolea et François Chéniaud. C'est leur première création qui présente ici même une sur trois, c'est Pâquerette.
Pâquerette à voir ce soir au studio Bagoué, une pièce pour deux danseurs et deux godemichés tout de même.
Exactement, et ce n'est pas de l'humour, c'est vraiment ça. Mais vous verrez, il n'y a aucune pornographie derrière, c'est-à-dire on peut danser deux heures avec un objet dans l'anus sans forcément être obscène. Et c'est justement le challenge de cette création. On retrouve ensuite 22h Kader Atou et Akram Khan au Théâtre de l'Agora à 22h également. Mais pour l'heure, écoutons Régine Chopineau. Elle était justement au micro de Lise Hoth que nous retrouvons dès demain. Lise Hoth, journaliste critique, notamment à Midi Libre. Et elle explique assez bien le fait que, pour la première fois, elle va piocher dans son histoire personnelle.
Et la première question de Lise Hoth portée sur la danse en tant que combat. Est-ce qu'il y a encore pour la danse nécessité à livrer des combats ? C'était la nature de sa première question à laquelle répond Régine Chopineau.
Une bonne lambada, ça règle tous les problèmes.
Voilà.
Bonjour à tous. Quand j'observe ce que font les grands artistes, que ce soit Cunningham, puisqu'il était là il y a très peu de temps, ou le dernier film de Jean-Luc Godard, par exemple. Ce sont des personnes qui sont toujours dans la volonté de questionner la place de l'art dans la vie, dans la société, me semble-t-il. Et aujourd'hui, dans le contexte actuel, il me semble qu'il faut beaucoup d'énergie et de désir pour affirmer cette place-là. Donc le fait d'être un guerrier ou de faire de la résistance, par exemple, me semble totalement associé au terme d'artiste.
Néanmoins, si tu veux, les combats qui étaient à mener dans les années 80, c'était pour implanter la danse dans le territoire.
Mais il n'y avait pas beaucoup de batailles à faire dans les années 80, puisque nous étions complètement accompagnés par un désir politique énorme et qu'il y avait un contexte de la création du moment qui faisait que tout était possible. Il y avait très peu, nous étions à l'époque, comparé à aujourd'hui, absolument très très peu, nous étions très peu nombreux. Donc, entre un désir affirmé de Mitterrand et de Lang vis-à-vis de cet art, plus le fait que nous étions que quelques-uns, on va dire que c'était une situation où il n'y avait pas beaucoup de bagarre à faire, au contraire. S'il y a une bagarre, elle s'est amplifiée au fur et à mesure des années, vois-tu ?
Qu'est-ce que tu penses ? Parce que quand même, ce titre d'indépendance est un titre qui peut être lu de manière à souligner le caractère offensif de son sens. Est-ce que c'est ça qui te paraît être vraiment ce qui est important là maintenant ?
Alors, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que on part toujours de soi. Et moi, avec la trajectoire que j'ai, ça me semble complètement juste. Et en tout cas, c'est là où ma vie et mes désirs et mes questionnements, en tout cas, m'amènent, dans le sens où, par exemple, après avoir dirigé donc, le centre chorégraphique pendant 22 ans à La Rochelle, je me retrouve compagnie indépendante, et ne serait-ce que déjà par rapport à ce terme, il faut bien que je l'assume et qu'en même temps je le réalise. Et après, on va dire qu'à 58 ans, parce que c'est vraiment aussi des histoires de trajet, de temps qui passe, d'évolution à la fois de soi, mais aussi de la société dans laquelle nous vivons. Ça me semble une bonne question de questionner, enfin de voir qu'est-ce qu'il y a derrière ce... Alors aujourd'hui, je ne sais pas combien de fois je vais utiliser le mot désir, mais ce désir d'indépendance, ou en tout cas de vivre ce statut d'indépendant. Aujourd'hui, il y a les Belges qui sont en train de se questionner sur leur indépendance. Le Québec également est en train, enfin dans deux ou trois ans, là, va à nouveau se re-questionner sur l'indépendance du Québec. Moi, je vais en ce moment, enfin depuis un an et demi, en Nouvelle-Calédonie, où on est encore dans un questionnement donc politiquement. Et puis après, on va dire au nom de l'individu, est-ce que moi je suis quelqu'un d'indépendant ? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça, quoi ? Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me semble juste.
Il me semble que ce qualificatif d'indépendante, tu l'as toujours finalement revendiqué, plus ou moins. Mais là, maintenant, enfin, c'est ce que tu m'as dit quand on en a discuté. Oui. Quelle est la différence de cette indépendance entre le moment où tu as décidé d'employer le terme de ballet pour la compagnie de La Rochelle, oui, et maintenant ? Qu'en est-il de la différence d'indépendance entre ces deux moments ?
Oh, mais en fait, dans Ballet Atlantique Régine Chopineau, c'était les initiales que j'aimais bien, parce que ça faisait BARC, ça faisait barque, donc une barque. Pour se déplacer, pour monter dedans, pour descendre, pour aller sur l'eau. Bon. Des fois, c'est vrai qu'on choisit des noms aussi pour des choses très simples. Il n'y a pas besoin de chercher loin pour avoir envie d'utiliser cette appellation. C'est vrai que il me semble qu'on doit être toujours... en avant, quoi, en avant de soi, en avant du regard que les gens portent sur nous. Et à l'époque, donc j'étais en 93, moi je suis une grande admiratrice des ballets suédois, par exemple. Et les ballets suédois, il y avait le mot ballet, et en même temps, c'était complètement d'avant-garde à l'époque. Et bon, c'est vrai que ça, souvent je fais des choses et c'est après que je me rends compte que c'est provocant. Parce que mais souvent, même dans cette inconscience-là, en fait, il y a des choses qui sont bien. Enfin, après, on m'a demandé, mais tu n'es pas... Enfin, ça a fait un peu
de controverse.
Ça a fait un peu de problème, surtout à l'étranger, quand on tournait. parce qu'il pensait effectivement voir du ballet classique. Et ben, ce que je fais, c'est pas du tout classique, mais en même temps, je vois pas pourquoi il y aurait que les danseurs classiques et le monde classique. Ballet, c'est un joli mot, quoi. Donc voilà. Et après, ça m'est passé. Aujourd'hui, je n'appellerais pas du tout mon travail sous le terme de ballet. C'était momentané, c'était bien de le faire.
Bien. Dans ce spectacle aussi, il y a peut-être une revendication contre une certaine façon de recevoir la danse, qui donc se met en place dans ce mouvement de commercialisation qu'on a vu apparaître dans les années 90. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose là-dessus aussi ?
Alors, ce qui est clair, c'est que ce n'est pas un spectacle. Ça, c'est évident. Autant la petite pièce que j'ai faite en février, qui s'appelle L'oral de la danseuse aveugle, qui a été créée aux Hivernales en mois de février, il y a encore du spectaculaire. On peut s'asseoir et puis on reçoit une pièce chorégraphique. Et donc c'est de l'ordre du spectacle. Mais là, ce que je suis en train de proposer, c'est un objet vraiment hybride qui questionne en fait notre capacité, alors à plusieurs endroits, on va dire pour le spectateur, il questionne sa capacité à déjà faire un réglage entre l'écoute et la vision, la vue. Comment ces deux sens qui sont très très importants dialoguent ou au contraire se font la guerre. Comment c'est compliqué lorsque vous vous mettez à écouter et à entendre. Comment tout de suite, dès que vous êtes dans cette action de vous mettre à l'écoute d'une parole, comment tout de suite le regard passe à un autre niveau d'absence, en fait. Donc ça m'intéressait de voir comment est-ce qu'on a dans notre capacité de personne vivante et perceptive, avec tous les sens que la vie nous a donnés, comment est-ce qu'on peut ouvrir comme ça plusieurs portes en soi et se faire son propre chemin entre ce qu'on voit, ce qu'on croit voir, ce qu'on écoute, comment la lumière, par exemple, dans la chapelle de la Miséricorde, qui est donc la chapelle du jour. Maryse Gauthier n'a travaillé qu'avec des gélatines, et donc il n'y a pas de lumière électrique. Et donc comment les nuages, le mauvais temps qu'on va avoir, certainement dimanche ou lundi, modifient l'état de cette chapelle, donc aussi l'état du spectateur. Donc ça, c'est première chose. Comment on est capable d'être multiple et complexe sans devenir, enfin en restant tranquille. Après, il y a en tant que spectateur, le fait aussi de s'accorder une liberté, de dire, 20 minutes, moi, la proposition sur cette réflexion de l'indépendance de l'Algérie 1962, ça me concerne moyennement. En 20 minutes, ça va, je peux partir. Parce que c'est vrai que des fois, ça suffit. Et donc, dans cet objet hybride que j'ai appelé installation, danse, son, image et lumière, ça serait vraiment génial, parce que j'ai vraiment la conscience maintenant, enfin, avec tout ce que j'ai fait, je sais bien que ce que je propose ne peut pas être partagé par tout le monde. Je le regrette, mais en même temps, aujourd'hui, je l'assume vraiment très simplement. Et je voulais donner la possibilité au public d'être maître de sa consommation. Qu'on n'était pas obligé de se fader une heure si au bout d'une heure, on n'en peut plus. Et si au contraire, trois heures, c'était magnifique pour la personne qui décidait, eh bien, on peut le proposer. Donc, il y a comme ça un espace de liberté par rapport à sa propre besoin d'être là, dans un endroit où il y a quelque chose qui a été imaginé et proposé. C'est utiliser son libre arbitre gentiment et tranquillement. Voilà.
Bien, alors je pense qu'on comprend bien que le terme d'indépendance est aussi approprié pour parler du mode de réception que tu invites à exprimer de la part du... que tu invites au spectateur à exprimer ou à vivre.
C'est pour pas consommer, quoi, pour pas être obligé d'être dans un truc passif.
Bien. Alors moi, il me semble que justement, cette passivité est sans doute difficile dans la mesure où il y a quand même un certain contenu dans le son et puis après aussi dans la danse. Qu'est-ce qu'il y a de particulier atelier-là. Bon, la danse, en fait, je continue à travailler, enfin, à chercher un état de présence, en fait. Donc, cet état de présence, c'est être là avec un corps qui a toujours été travaillé par la danse, par le mouvement, par le questionnement. Et c'est vrai que il n'y a pas beaucoup de danse, mais en même temps, il n'y a que de la danse, parce que c'est vraiment un corps d'une personne qui est complètement encore affamée par cette nécessité du mouvement, quoi, et du geste dans l'espace et dans le temps. Donc, moi, je dis que je danse, mais forcément, il y aura des gens qui diront « Bon, elle ne bouge pas, quoi ».
Je voudrais venir donc à cette idée que cette installation, c'est aussi une installation dans laquelle la part autobiographique peut-être est plus grande. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et nous dire de quel aspect de ta vie cela concerne et pourquoi tu l'abordes maintenant?
Oui, moi je fais partie j'ai fait partie des personnes qui ne supportaient pas pendant toutes ces années, enfin jusqu'à 2008, qui mélangeait les trucs intimes et puis les trucs artistiques. Quand, par exemple, je lis des biographies de personnes, je ne supporte pas les trucs perso, quoi. Voilà. Et puis, là, avec tous ces bouleversements et puis toutes ces années, quand même, quoi, ça fait beaucoup de temps, j'ai eu ce besoin, donc complètement instinctif. Tout d'un coup, j'ai réalisé, c'était en allant en Nouvelle-Calédonie, où il y a une grande communauté pieds-noirs qui sont donc partis en 1962 et qui sont allés principalement sur la Grande Terre à Nouméa. Et donc, je voyage pour m'éloigner le plus loin de la France, 22 000 km, c'était bien, dans le Pacifique Sud. Et je me retrouve face à cette chose de ma famille, c'est-à-dire de ces gens qui sont partis en 1962, et avec en plus la question du colon. Et à un moment donné, j'ai réalisé que j'avais jamais abordé au niveau de comment je suis formée, au niveau de l'imaginaire, de mon énergie, de ce que je suis, de comment je bouge, de comment je regarde. Quand même, je suis restée de ma naissance jusqu'à l'âge de 10 ans. 10 ans, c'est hyper grand. C'est énorme. Donc, tout mon imaginaire, toutes mes odeurs, elles ont été initiées, construites par cette Algérie, qui est donc le pays. Je veux dire, c'est mon pays. Et donc, il a fallu que j'attende 57 balais pour tout d'un coup réaliser une chose sur laquelle j'avais bien soigneusement mis de côté. Et donc, ce qui me surprend, donc j'assume. Voilà. Aujourd'hui, j'assume de partir d'une chose privée. Mais ce qui m'étonne en même temps, c'est de la même manière jusqu'à 2008, j'ai toujours refusé qu'on m'estampille sur la politique. Voilà. J'avais deux interdits, comme ça, débiles, mais en même temps, quand vous avez des interdits, souvent, il y a des choses intéressantes derrière. Et là, c'est un sujet, mais ô combien politique. Donc, cet intime que je ne voulais pas, reconnaître, me fait aller à un endroit, et là, tout d'un coup, je vois bien, quand j'entends ces témoignages, et tout commence à... ça me questionne, ça me traverse, ça éclaire aussi ma capacité de la tolérance et de la différence. Mais pas intellectuellement, quoi. C'est vraiment une chose... c'est incarné, quoi. Eh bien, je suis toute surprise, mais aujourd'hui, c'est vrai. Je fais quelque chose que j'ai jamais voulu... j'ai toujours refusé de faire. Donc c'est à la fois intime et à la fois politique. Et là, ben, il va falloir que j'assume, quoi.
Dans le programme, tu as écrit un texte absolument extraordinaire, d'ailleurs, sur ce souvenir, en parlant du rituel d'une enfant, un an et demi jusqu'à l'âge de 4-5 ans, assise sur les genoux de sa grand-mère, chaque soir, à la même heure, après le repas du soir et avant d'aller se coucher, en toute saison, qui regarde la mer Méditerranée. Pourquoi avoir... qu'est-ce que c'est cet élément-là C'est cette image-là, c'est ce souvenir-là.
Non, mais c'est ici qu'une personne a transmis l'essentiel de la vie. Si aujourd'hui, je remarque que je suis solide, que je suis... on m'a donné les bons repères, quoi, pour vivre. On m'a fait la transmission essentielle de ce qu'une personne, un adulte, doit pouvoir donner à un enfant, donc c'est l'amour. Et avec cet amour, avec cette notion d'amour, c'est peut-être aussi pour ça, quoi, que profondément je suis ce que je suis, quoi. C'est-à-dire, j'y vais, quoi. J'y vais, et puis elle m'a appris à voir. Donc, que c'est vrai que quand tu regardes le même paysage tous les jours, dans un confort, on va dire, émotionnel, physique, à tous les endroits, quoi. Eh bien, après, je peux te dire qu'un corps qui bouge, ou n'importe quoi qui bouge ou qui bouge pas, ce don, il m'a été donné. Et donc, je suis douée pour voir. Et ça sert. Ça sert bien. Je suis partie d'une famille qui n'est pas facile à assumer, quoi, politiquement et tout ça. Et donc, c'était tabou de parler de... Donc, tout de suite, ça a été très clairement, c'est en Algérie, ça s'est clairement dit dans le texte. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est aussi comment une femme de silence impose à tout le monde, ça, parce que c'était une femme, comment on les appelle, les femmes fortes. Oui, une femme, ouais, forte. Voilà. C'était de grande nature. Et donc, non, dès le début, en fait, je savais que j'étais en train de questionner aussi les indépendances politiques et donc le fait de coloniser, quoi. Et de décoloniser. Et pourquoi il y a toujours un rapport agressif possible et privilégié entre deux individus? Pourquoi il y en a toujours un qui veut manger l'autre? Parce que c'est aussi ça que ça questionne. Profondément.
Donner la parole à des gens qui ont vécu ça aussi, ça n'a pas n'importe quelle signification non plus.
Ben, il fallait bien que je leur pose à eux. Et il fallait bien que je comprenne, parce que moi j'ai eu une vision tellement réductrice, caricaturale, quoi. Je suis d'une famille type, quoi, caricaturale. Et ces gens que j'ai rencontrés, ils m'ont heureusement donner une parole complexe, multiple, sensible, complémentaire. Et c'est comme ça que tout à coup je me réconcilie avec aussi ma propre famille et cette grand-mère qui à la fois, je veux dire, m'a donné le cadeau essentiel qu'on peut espérer avoir pour tout être humain. Et en même temps, elle m'a... Enfin, c'était dur, quoi, à accepter cette vision qu'elle avait, elle.
Une précision à ce propos, qui et comment, qui a détecté, comment ont été détectées les 9 personnes que tu as rencontrées?
Alors, j'en ai interviewé 12, en fait, 12 en tout, et puis maintenant j'ai commencé, ils ne sont pas présents, ces entretiens, mais c'est pour l'indépendance numéro 2. Aussi des personnes qui sont donc en Algérie, parce que c'est essentiel aussi d'avoir
Excuse-moi, j'ai pas dit combien, j'ai dit
qui
et comment.
Alors,
parce
Anne-Sophie du Festival de Montpellier Danse, qui connaissait. Enfin, pour moi, c'était important que si par exemple je fais un autre indépendance, que je questionne et que je fasse des entretiens avec les personnes de cette ville. C'est vraiment essentiel aussi, quand tu vois qu'il n'y a pas que le lieu, il y a aussi, si quelqu'un m'invite, il faut aussi que je refasse des entretiens de la ville où je suis.
Oui, j'entends bien, il y a un dispositif de...
In-situ.
Oui, de l'in-situ, avec ce que ça signifie de travailler en amont, bien entendu.
Oui, c'est ça.
Voilà, c'était la conférence de presse que donnait ce matin Régine Chopineau à l'Agora de la Danse, au micro de Lise Hoth, avec quelques interventions également de Gérard Mayen. On ne va pas se quitter sans le rappel des activités de la journée. Par exemple, City of Abstract de William Forsythe, toujours à voir dans le hall du musée Fabre, ainsi que ses diverses installations vidéo. Pour le coup, là, ça se passe au pavillon populaire, voilà, jusqu'à 19h. Et puis une installation vidéo également dans le hall du Centre chorégraphique national, avec des films réalisés par les étudiants de Exers. À 15h, vous pourrez voir, dans le cadre de la manifestation Mouvement sur la ville, qu'on pourra qualifier entre guillemets de off de Montpellier Danse, la pièce de François Rascalou, déclassée X. Ça se passe à la chapelle Gély, rue Joachim Dubélé. Également pas mal de vidéos danse à l'Agora à partir de 15h. Aujourd'hui, c'est Hideyuki Yano qui sera l'objet de cette vidéoconférence. Et puis, Cécilia Bengolé à François Chéniaud pour leur première intervention dans ce festival avec Pâquerette. Ce sera à 19h au studio Bagoué. Puis à 21h, deuxième représentation pour ce Pâquerette. Kader Atou, que l'on retrouve à nouveau dans l'ancien lycée Mendes France à partir de 22h pour sa Sinfonia Piesni Zalosnichen. Très difficile à dire tout ça. Et puis Akram Khan avec Gnosis au théâtre de l'Agora à partir de 22h. Et enfin 23h, Mouvement sur la ville encore avec à la salle 3 dans le quartier Figuerol, Geneviève Sorin et Lula Chourline pour Sur Parole. Voilà, demain on se retrouve à 13h avec Lise Hoth pour un point sur cette première semaine de festival. Lise Hoth, journaliste et critique de la danse, Vincent Cavaroc et Vincent Pourageau seront sur le plateau également. À demain donc.